La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête.
Au menu de notre club cet après-midi, les grands noms de la science pendant la Seconde Guerre mondiale, le physicien Étienne Klein sur scène pour une récréation à méditer et puis des actions pour réagir et sauver les oiseaux. Et bien sûr, je vous présente mes invités dans un instant. Héloïse Rambert, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Aujourd'hui à la Une de la Science, on se penche sur le cas des couche-tôt et des lève-tard. Tout le monde sera content.
Oui Mathieu, parce que la science a son mot à dire sur nos biorhythmes. Mmh. On va voir que si on a du mal à sortir de son lit le matin ou si au contraire on peine à rester éveillé après l'heure de l'apéritif, on peut blâmer ses gènes, mais en partie seulement.
Tant mieux, ça nous intéresse. On voit ça dans un instant. Fanny Boyon réalise cette émission qui a été préparée aujourd'hui par Chantal Lemontagné avec Irène Menahem.
La tête au carré. Le club. Avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Et je salue les invités de notre club, Daniel Bones, Sébastien Balibar, Étienne Klein et Sophie Bécherel. Bonjour à vous tous.
Bonjour. Bonjour.
Et bienvenue Sébastien Balibar, on commencera avec vous. Tout à l'heure, vous publiez chez Odile Jacob « Savants cherchent refuge » ou « Comment les grands noms de la science ont survécu à la Seconde Guerre mondiale ». C'est un ouvrage donc qui rend hommage d'abord au courage de ces hommes, de ces scientifiques qui ont traversé la guerre dans des conditions très difficiles, pour eux-mêmes et pour leur discipline d'ailleurs.
Oui, entre autres, il y a beaucoup de choses dans ce livre, mais le sujet principal, c'est que je raconte une histoire de deux savants qui fuient l'antisémitisme, l'un de Hongrie, l'autre d'Allemagne, et qui se retrouvent à Paris en 1937-38, qui font une découverte que je crois fondamentale, dans des conditions absolument terribles. Et donc c'est l'occasion à la fois de parler de la science à cette époque, de l'histoire de cette époque, de la façon dont les savants ont été traités. Et donc ça débouche, je vous laisse la surprise.
Ouais, on va en parler évidemment tout à l'heure ensemble. Ça fait écho aussi à des situations très complexes pour les chercheurs étrangers aujourd'hui qui parfois aussi doivent quitter leur pays dans des conditions d'urgence. Et on en discutera également avec vous. Sophie Bécherel, votre invitée aujourd'hui.
Étienne Klein, physicien, philosophe des sciences, producteur de radio, vulgarisateur scientifique et qu'on ne va pas trouver ces prochains jours dans un amphithéâtre, mais dans un théâtre. Récréation à méditer, donc c'est le spectacle que vous allez proposer, vous voilà sur les planches maintenant.
C'est pas un spectacle, c'est une conférence dans un théâtre. C'est pas une pièce de théâtre.
Ça change les choses.
Ça change beaucoup de choses. C'est pas comme dans un amphithéâtre, parce que c'est plus écrit, il y a un petit peu de mise en scène, il y a des vidéos, mais c'est pas une pièce de théâtre.
Mais ça fout plus l'échelon qu'un amphithéâtre.
Oui, parce que le théâtre a un halo symbolique que n'a pas l'amphithéâtre. Dans un amphithéâtre, les rôles sont institués. Il y a le professeur, il y a les étudiants, tout ça est bien réglé. L'attention des étudiants, je veux dire, est ce qu'elle est. Dans un théâtre, il y a une qualité d'écoute qui est quand même supérieure.
Voilà, ce sera le 4 et le 11 février, donc au Théâtre de la Madeleine, deux représentations exceptionnelles avec Étienne Klein. Et puis Daniel Bones, vous êtes journaliste spécialiste en nature et environnement. Vous faites aussi de la radio, je sais, une fois par mois. Et vous publiez « Sauvons les oiseaux » chez Rustica Éditions avec le soutien de la LPO pour parler entre autres de la chute des populations d'oiseaux. C'est quelque chose d'assez effrayant. Quand on voit les chiffres que vous rappelez dans le livre, on tombe des nues quand même.
Voilà, un tiers des oiseaux ont disparu ces 25 dernières années, ce qui est effectivement totalement terrifiant. Et c'est ce que je raconte un petit peu dans la première partie de... Pas un petit peu d'ailleurs, complètement. Ouais. Dans la première partie du livre qui est un état des lieux, en fait, de tout ce qu'on... toutes les recherches qui ont été faites et toutes les études qui ont été faites.
Mais heureusement, on peut agir.
Voilà.
Et ça, alors, c'est la suite du livre.
Voilà, c'est la deuxième partie du livre où je liste des actions et...
Et on va en discuter avec vous alors, parce qu'on a envie de savoir ce qu'on peut faire également à notre niveau. Et puis bien sûr, les auditeurs vont nous rejoindre avec les messages et toutes les questions sur l'ensemble de ces sujets. Vous nous rejoignez sur franceinter.fr.
Ce soir, il faut que je me couche tôt, parce que là, aujourd'hui, je suis encore complètement crevé. Ce matin, je suis carrément en retard, parce que je me suis endormi après le réveil. Faut vraiment que je me couche plus tôt. Là, hier soir, je me suis couché assez tôt. C'est pas encore suffisant. Ce soir, je me coucherai tôt, là, c'est sûr. Là.
Voilà, ça c'était l'extrait d'une vidéo de 1989 intitulée « Les réveils » de l'artiste vidéaste Pierrick Serin qui visiblement, Héloïse Rambert, n'est pas un couche-tôt et expérimente des réveils un peu douloureux. Hein.
Oui, mais est-ce que c'est de sa faute, Mathieu, à ce pauvre Pierrick Serin? C'est toute la question, parce qu'il a l'air de s'en vouloir à mort de ne pas parvenir à se coucher tôt et donc être frais et dispo au réveil. En fait, il pourrait être prédisposé génétiquement à être un couche-tard et un lève-tard. Une étude parue dans la revue Nature Communication affine les connaissances qu'ont les scientifiques sur le lien entre génome et horloge biologique, et même d'autres caractéristiques liées à la santé. Pour commenter cette étude, on rejoint Claude Gronfier au téléphone. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes neurobiologiste, chercheur à l'INSERM sur les rythmes biologiques et le sommeil. Vous travaillez également au Centre de recherche en neurosciences de Lyon. Alors, on savait déjà que notre horloge biologique, nos rythmes de sommeil, avaient une origine génétique.
Oui, on savait déjà. C'est ce qui a permis d'ailleurs à nos prix Nobel en physiologie attribués en 2007, attribués à des chronobiologistes, d'avoir ce prix. C'est depuis les années 70-71 qu'on sait que la mécanique de notre horloge biologique interne, celle qui régule les rythmes de 24 heures, du sommeil, de la température, etc., dépend de quelques gènes. Là, cette étude est allée beaucoup plus loin et elle a confirmé un ensemble de choses qui étaient jusqu'à maintenant des hypothèses. Et surtout, elle permet de faire le lien entre la génétique et la santé.
Ces gènes qu'on connaissait déjà, cette poignée de gènes, où est-ce qu'ils se trouvent dans l'organisme et comment ils fonctionnent?
Alors, nos gènes se trouvent dans toutes nos cellules. Toutes nos cellules comportent le même patrimoine génétique. En revanche, certaines cellules ont développé la capacité à avoir une activité rythmique. Et dans le cerveau, dans des cellules qu'on appelle les cellules du noyau suprachiasmatique, c'est une petite structure située juste au-dessus du chiasma optique, qui est cette zone où se croisent nos nerfs optiques, et bien dans ces cellules-là se trouve une horloge, c'est le terme, une horloge biologique, qui fait que certains gènes, une quinzaine de gènes, qu'on appelle maintenant les gènes horloges tout simplement, vont par leur interaction vont générer une activité électrique dans chacune de ces cellules, dans chacun de ces neurones, ce sont des cellules nerveuses, et cette activité électrique va avoir une rythmicité proche de 24 heures.
Cette nouvelle étude, elle a été faite sur des dizaines de milliers de personnes. Qu'est-ce qu'elle apporte sur la compréhension de la génétique de l'horloge biologique?
Ce qu'elle apporte déjà, c'est qu'en fait, le système est beaucoup plus compliqué qu'on ne le croyait. Évidemment, c'est toujours le cas en science, hein. On croit comprendre quelque chose, on fait une étude et finalement, il y a plus de questions qui se posent suite à l'étude que de réponses auxquelles on a répondu. Là, ce que l'étude montre, c'est que le fait d'être une personne du matin, c'est associé à un ensemble de choses. Un ensemble de mécanismes ne fonctionne pas de la même manière chez les couche-tôt et chez les couche-tard. Et les couche-tôt, comme le révèle cette étude, sont moins souvent atteints de troubles de type troubles affectifs, dépression, schizophrénie, rapportent être de meilleure humeur et ont une sensation de bien-être qui est supérieure si on les compare à ceux qui ne sont pas du matin et en particulier aux couche-tard-lève-tard.
Donc ça veut dire que statistiquement, les personnes qui se lèvent naturellement tôt ont une meilleure santé mentale, on peut aller jusque-là?
Alors, on peut aller jusque-là si on en croit l'étude, et il faut évidemment la croire, il faut reproduire cette étude pour, en science, vous savez, généralement, on aime que les études soient reproduites sur d'autres populations afin de vérifier que ça sera, que les résultats seront les mêmes. En tout cas, oui, si on en croit cette étude, c'est ce que les résultats montrent, c'est que le fait d'être du matin est associé à moins de ces pathologies qu'on a évoquées, en effet.
Mais à quel point les gènes déterminent ces caractéristiques? On serait prédisposé à avoir une horloge biologique particulière et des symptômes particuliers?
Alors, on est prédisposé, en tout cas, à avoir une horloge particulière. Je vous disais, notre horloge biologique repose sur une quinzaine de gènes dits horloges. Ces gènes horloges-là, on les a depuis la naissance. Et chez un individu, ils vont fonctionner de manière rapide. Et ça conduira à être du matin, avoir une horloge rapide conduit à avoir un sommeil précoce et un lever précoce. Alors que chez d'autres, la génétique, les rouages vont fonctionner de manière un peu plus lente. Et ces individus-là sont des couche-tard, lève-tard. Donc l'horloge est réellement, le fonctionnement, la vitesse de l'horloge est réellement dépendant de ces gènes-là. C'est génétiquement programmé. En revanche,
Allez-y.
Là, évidemment, oui, en revanche, l'horloge va être influencée par l'environnement. Elle sera pas complètement indépendante de l'environnement. Et notre comportement, lui, va moduler cette vitesse de l'horloge. Et un couche-tard-lève-tard qui se surexpose à la lumière le soir, eh bien, sera excessivement couche-tard-lève-tard. Alors que s'il réduit son exposition à la lumière avant de coucher, eh bien, il va non pas devenir couche-tard-lève-tôt, mais il va traiter en partie son problème de sommeil.
Et Claude Ronfier, ça veut dire que c'est compliqué de lutter contre ses habitudes finalement, parce que j'entends qu'il y a une sorte de déterminisme génétique quand même un petit peu dans tout ça.
Oui, il y a un déterminisme génétique. C'est compliqué parce qu'en effet, quand on est couche-tard-lève-tard, on n'a pas sommeil par exemple avant minuit ou 1h du matin. Mmh. Donc même si on va se coucher à 10h, on ne va pas s'endormir. Ceci dit, comme l'étude là aussi le révèle, eh bien, l'environnement va avoir un rôle tout à fait important. Et ce que j'évoquais juste avant, c'est que chez un couche-tard-lève-tard, si en plus le comportement, l'hygiène de sommeil est mauvaise, si l'hygiène de lumière est mauvaise, eh bien, il va y avoir des symptômes qui seront exacerbés par cela.
Merci beaucoup, en tout cas, à Claude Gronfier pour cet éclairage, finalement, qui nous rassure quand même, d'une certaine manière, si les gènes y sont un peu pour quelque chose. Voilà, ça va nous déculpabiliser, en tout cas. Merci beaucoup à vous. Et puis, Héloïse, on se retrouve lundi avec une nouvelle une de la science.
À lundi, bon week-end.
Et c'est le club dans un instant. Let me get that intro. Blunts, gators, hand me my mink. On the east, ducking fast from a peephole. 1989, gang banging was at its peak. This the beat that make me reminisce on G-Phone. Three summers before the chronic hit the streets. I would rather sling hand to hand to a fiend. Rapping on the side, trapping was priority. But every now and then, I go scoop my little thing. Pull up in my MC, banging new jack swing. Ooh, summertime time back in Long Beach. Passing one bottle, 40 ounce OE. I didn't have a dollar, but a nigga had a dream. Whipping over the stove and a nigga gotta eat. Threw my raps in the garbage, fuck being an MC. Thank the Lord for Nate Dogg and thank God for Warren G. Funny how time flies when you're high as me. I think I'm in the rough fence now. I seen her throwing up edge down. You was living off a true heel. Wasn't ready for the world, but baby, who is? Know you prettier than all the elder bodges. Never worry about the total of the charges. I got this. And if you need an escape for now, meet up at room 112. We do it anywhere. We can do it. Yeah. And if you're feeling out, just call me, baby. Call me. I'll have you screaming. Call me. Ooh, ooh. We'll get back to all that ghetto shit we like. But for now, just let me hold you all night. Cheek to cheek, just like they do in the movies. Tonight, baby, I want your love all time. As soon as I put this on, Cuba, you're the reason. As soon as I put this on, I love you so, and I'll never let you go. As soon as I put this on, girl, ooh, yeah. As soon as I put this on. Anywhere, c'était Anderson .Paak.
La tête au carré, le club, sur France Inter.
Voilà, au menu du club cet après-midi, donc les grands noms de la science pendant la Seconde Guerre mondiale, un physicien sur scène pour une récréation à méditer et puis des actions concrètes pour sauver les oiseaux bien mal en point en ce moment. Et vous pouvez nous rejoindre bien sûr avec vos messages, toutes vos questions sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Sébastien Balibar, on va commencer donc avec vous. Vous êtes physicien, directeur de recherche à l'École Normale Supérieure de Paris, membre de l'Académie des Sciences et du Comité PAUSE. C'est un programme d'aide en urgence aux scientifiques étrangers. On en avait déjà parlé d'ailleurs dans cette émission ici, et vous publiez Savants cherchent refuge, hein, comment les grands noms de la science ont survécu à la Seconde Guerre mondiale. C'est chez Odile Jacob. Comment d'abord vous avez été amené à vous intéresser à ce sujet particulier exactement?
Ah oui, il y a une part de hasard là-dedans. Il se trouve que quand j'étais jeune étudiant et que je préparais mon doctorat, par hasard, effectivement, je me suis intéressé à la manière dont un liquide très très froid s'évapore quand même. Ce liquide, c'est de l'hélium liquide et c'est très près du zéro absolu, donc vers moins 273 degrés. Et je me suis aperçu que la façon dont cet hélium liquide s'évapore est à rapprocher de l'effet photoélectrique qui a permis à Einstein d'avoir le prix Nobel. C'était pas rien, donc j'étais jeune, j'étais très fier. Mais du coup, je me suis intéressé à la manière dont cette découverte a été faite, des propriétés de ce liquide bizarre qui, quand on le verse dans un verre, sort tout seul. Quand on essaye de le faire tourner, il fait un réseau de petits tourbillons tous pareils, mais il fait pas du tout un grand tourbillon comme dans votre lavabo. Et surtout que quand on essaye de le faire couler à travers une toute petite fente, ou le long d'un micro-tuyau 100 fois plus petit qu'un cheveu, il coule à toute vitesse, alors que n'importe quel liquide classique ne coule plus. Quoi.
Ouais.
Bon. Et donc c'est pour ça qu'on l'appelle superfluide. Bon. Et en m'intéressant à la manière dont surtout dont la découverte expérimentale a été faite, mais aussi la découverte théorique...
Vous avez remonté le fil de l'histoire.
J'ai remonté le fil. Je me suis d'abord aperçu que c'était une découverte fondamentale, en 1938, faite par deux immigrés, un Hongrois et un Allemand, qui se retrouvaient à Paris, et qui en quelques mois ont eu une idée révolutionnaire, à savoir que la physique moderne qu'on appelle quantique... pour des raisons qui sont compliquées, mais bon, ne s'adresse pas seulement à la compréhension de la structure interne des atomes, donc au microscopique, où peut-être on va l'accepter qu'une particule soit aussi une onde, mais enfin bon, mais aussi aux propriétés visibles à l'œil nu d'un litre d'hélium liquide un peu froid.
Donc il y a du quantique dans la physique des fluides hein.
Absolument, ouais. Il y a du quantique à l'échelle macroscopique qui d'ailleurs a envahi complètement tout notre monde, toute notre technologie actuelle. Mais la première fois qu'on s'en est rendu compte, que pour des questions de statistiques, j'entre pas dans les détails, la physique quantique, ça se concernait aussi le monde macroscopique. C'est ça que je trouve fondamental. Maintenant, ce que j'ai trouvé passionnant, ou en tout cas très étonnant, c'est que deux chercheurs à peine arrivés...
Lesquels ? Citez-les quand même.
Alors, il y en a un qui est hongrois, donc qui s'appelle László Tisza, qui a voulu fuir l'antisémitisme en Hongrie sous l'amiral Horthy, qui devenait épouvantable, qui a eu la bonne ou la mauvaise idée d'aller en Russie soviétique, chez Lev Landau, dont on parle beaucoup, grand génie de la physique soviétique. Enfin, il était anti-soviétique, enfin bref. Il a eu l'idée d'aller là-bas au moment où le stalinisme devenait terrifiant. Bon. On envoyait au goulag des enfants ce qui était en retard de 21 minutes à leur travail ou on condamnait à mort des gens qui avaient jusqu'à 12 ans, par exemple. Bon. Donc il s'est enfui, il est arrivé à Paris, grâce à d'autres qu'il connaissait. Et là, il a rencontré un Allemand, donc Fritz London, qui est rien moins que celui qui a découvert la chimie moderne en comprenant qu'elle relevait de l'équation de Schrödinger, donc à nouveau de l'équation de la physique quantique. Et Fritz London, il avait essayé de s'enfuir lui aussi, en laissant malheureusement sa mère derrière, ce qui était tragique. D'ailleurs, Tisza aussi a laissé ses parents derrière. Et tous ces immigrés, vous savez, ils s'en vont et ils sont couverts de culpabilité parce qu'ils sauvent leur peau, mais ils laissent leurs parents derrière. Mmh. C'est assez tragique de voir ça, de voir les preuves, etc. Vous voyez.
Alors, c'était à la fois raconté finalement de la physique pure.
Oui.
Et le destin de ces hommes qui ont été quand même des génies de la science aussi quand même. Hein. Alors, vous n'avez pas choisi n'importe quel individu.
Absolument. Hein. Fritz London est plus connu que László Tisza, mais il est mort prématurément, donc ils n'ont pas eu le prix Nobel ni l'un ni l'autre. À mon avis, Tisza a eu un rôle très important et il est mal reconnu, donc j'ai un peu rétabli ce que je crois être la vérité. Et c'est effectivement une occasion d'aborder des problèmes beaucoup plus graves et vastes qui sont d'abord l'histoire des sciences à cette époque-là. La science était mondialisée, comment ça se passait, la concurrence, etc. Ensuite, l'histoire tout court, parce que c'est des questions politiques. Hein, comment ces émigrés ont été accueillis en France,
Le rôle de la France qu'on découvre vraiment.
Oui.
Dans ce contexte et très
rôle,
particulier du nazisme.
Le rôle inclut trois choses différentes. Il faut des intellectuels courageux. Alors, c'était beaucoup le Collège de France. Et aujourd'hui, à propos du programme PAUSE dont vous parlez tout à l'heure... Ça reste le Collège de France, avec un peu d'école normale supérieure, etc. Bon, l'Institut Henri Poincaré, bon... donc c'est une occasion de voir comment l'accueil se passait en France au moment où le Front Populaire pendant un an a eu le pouvoir mais l'a cédé à Daladier qui lui a immédiatement commencé à prendre des lois et des ordonnances antisémites surtout à l'égard des juifs étrangers qui ont été terrifiantes puisqu'on a interné des grands artistes comme Max Ernst, des prix Nobel comme Otto Meyerhoff, des futurs prix Nobel comme Alexandre Grotelnik qui avait 12 ans avec sa maman dans un camp d'internement à Rieux Cros, je crois, etc. Donc on découvre le blanc et le noir. Et puis après, il y a le problème des États-Unis qui vont les accueillir, ils vont s'en sortir par miracle, parce que c'est vraiment par miracle qu'ils ont réussi à sortir de France.
Et tout ça en parvenant à faire de la science et de la grande science,
justement, alors, dans ces conditions. Comment ont-ils réussi à avoir des idées aussi importantes dans cette tourmente ?
On va y revenir évidemment, Étienne Klein. Bien sûr, ces destins chaotiques dans ce contexte particulier, c'est pas fait pour vous déplaire. Hein.
Non, bien sûr, mais Fritz Lamdon, que cite Sébastien Balibar, c'est un personnage extraordinaire. En 1939, il a écrit un article avec Edmund Bauer, qui était un Français, un article absolument génial sur la mesure mécanique quantique.
Oui.
Et à la fin, il utilise cette expression qui va faire florès, la physique produit des résultats qui sont des découvertes philosophiques négatives. C'est-à-dire qu'ils viennent changer... la façon de répondre à certaines questions philosophiques sur, en l'occurrence, le statut du réel et le lien qu'on a avec lui. Mais ce que montre ce livre que je n'ai pas encore lu, mais que je vais...
vous allez vous procurer bientôt.
Que je l'ai déjà. Je ne l'ai pas encore lu, pour des raisons qu'on ne va pas expliquer à l'antenne.
Vous êtes en répétition, c'est pour ça.
C'est simplement que le moment où l'Europe a produit le meilleur d'elle-même, d'un point de vue intellectuel, la mécanique quantique, c'est principalement des Européens qui l'ont mis sur pied. Elle a aussi produit le pire d'elle-même d'un point de vue politique. Mussolini, Staline, Hitler.
Mais c'est exactement ce que vous racontez.
C'est justement, et je vais un peu plus loin dans mes explications, parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement, comme le dit Étienne Klein, la science allemande était à la pointe du progrès. Elle était absolument brillantissime. Mais le nazisme a tout ravagé, parce que tout ou presque tous, pas Heisenberg par exemple, mais beaucoup, beaucoup de tous les autres, sont partis, ont fui le nazisme, et se sont retrouvés finalement, en passant parfois par l'Angleterre et un peu par la France, mais se sont retrouvés aux États-Unis, où ils ont retrouvé Einstein et des gens comme ça, à Princeton et bien dans bien d'autres endroits, Enrico Fermi à Chicago, etc. Et là, par besoin d'aider... sans doute, enfin, à mon avis, par besoin d'aider leur pays d'accueil à se défendre, ils ont contribué à la recherche militaire et en particulier à la construction de la bombe atomique.
Oui, mais c'est ça aussi. Quand vous disiez ça a produit le meilleur et le pire, je pensais que vous alliez parler de la bombe pour parler du pire, justement.
C'est ce qu'il voulait dire.
Je parlais du pire politiquement, c'est-à-dire des régimes autoritaires.
Non, mais bien sûr, mais le pire aussi, c'est la bombe atomique, quand même.
Oui. Mais oui, et donc ça m'amène à être obligé, j'ai hésité parce que le problème est très très complexe, mais à donner mon avis sur la responsabilité des scientifiques dans la bombe atomique.
Alors c'est toujours la question qu'on pose.
Grave problème.
Ouais. Et alors, quelle est même la responsabilité d'Einstein justement dans la bombe atomique ?
Alors celle d'Einstein, elle est négligeable.
C'est un lanceur d'alerte.
Les amis de Tissa dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont Léo Szilard, Eugène Wigner et Édouard Teller, sont ceux qui sont allés voir, surtout Léo Szilard, mais enfin les trois en fait qui ont contribué, sont allés voir Einstein quand on a compris ce que c'était que la fission nucléaire. Donc ça c'est encore des immigrés, mais en Angleterre, Frisch et Pyles, bon, c'est plein d'immigrés dans cette période. Bon, ils sont allés le voir pour alerter Roosevelt en lui disant « Attention, les nazis sont capables de construire une bombe d'une puissance colossale, il faudrait peut-être s'en occuper. » Mais Einstein n'est jamais allé au-delà, et d'ailleurs il n'avait pas de connaissances particulières en physique nucléaire. Sauf que...
Mais il a écrit quand même, il a écrit pour mettre en garde.
Il a écrit une lettre.
C'est en ça qu'il a été lanceur d'alerte, finalement.
Qui est très émouvante à lire, et non moins émouvante, et la réponse de Roosevelt, qui a été jointe par des acrobaties que je raconte aussi. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc tous ces immigrés ont fini par, mais pas vraiment Einstein, c'était ça votre question, ont fini par s'investir énormément et sans eux, les États-Unis n'y seraient jamais arrivés. Et j'explique pourquoi les Allemands ont essayé, mais n'y sont pas arrivés, heureusement.
Oui, à utiliser la bombe.
Construire d'abord. Ouais. D'ailleurs, il y en a deux, des bombes. Il n'y en a pas qu'une. Il y a le plutonium et l'uranium.
Sébastien Balibar, justement, comment on explique que dans ces années 30, il y a une sorte de cristallisation des esprits qui fait que justement, on est à un moment tout à fait important pour la physique comme pour la chimie, d'ailleurs. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tout d'un coup, il y ait tous ces génies qui bousculent et qui font naître une science moderne aussi?
Ça, c'est une question difficile. Il se trouve qu'à cette époque, comme le disait Étienne tout à l'heure, effectivement, il y avait une concentration de grands esprits, de grands savants en physique, en mathématiques et en chimie dans l'Allemagne. Il se trouve qu'au même moment, les contradictions internes de l'Allemagne étaient telles qu'il y avait, comme dit Étienne, le meilleur et le pire. Et donc, le pire a fini par détruire le meilleur. Et donc, la science allemande s'est retrouvée désarmée, ravagée, labourée par les conséquences du nazisme, dont l'une d'entre elles, parce qu'il y en a beaucoup qui sont morts carrément, hein, bien sûr. Bon. Mais enfin, il y en a beaucoup qui ont réussi à s'enfuir d'une manière qui est très intéressante à comprendre. Et donc, l'Allemagne s'est trouvée déshabillée, quoi, ouais. si vous voulez. En revanche, la recherche en les États-Unis a pris un coup de fouet extraordinaire.
Ouais. Alors, évidemment, il y a tous les grands noms de l'époque qu'on croise. Hein. Oui. Celui de Jean Perrin aussi, qu'on peut peut-être rappeler, parce que les Français ne le connaissent pas forcément non plus très très bien, alors que c'est aussi un prix Nobel de physique.
Absolument, une œuvre essentielle sur la mise en évidence des atomes. Hein. Bon. Et donc, Jean Perrin, comme Paul Langevin, comme Frédéric et Irène Joliot-Curie, sont des prix Nobel qui étaient engagés politiquement aux côtés du Front populaire, ce qui a permis d'accueillir un certain nombre de grands esprits qui cherchaient un endroit pour se protéger. Ouais. Et ils y sont arrivés grâce à ces... Mais ça n'a pas duré longtemps. Donc, en France aussi, c'était finalement peu de temps après l'affaire Dreyfus. Hein. Et donc, les contradictions entre, mettons, Daladier et Léon Blum sont gigantesques.
Bon. Donc, finalement, il y a eu une terre d'accueil très courte effectivement sur le temps hein, pour ces personnes persécutées.
Oui.
Hein,
et d'ailleurs, mes savants immigrés, là, ils ont demandé la naturalisation parce qu'ils se sentaient bien. Et puis je raconte, c'est très émouvant de voir la femme de Fritz London qui était peintre et qui rencontre les cubistes français, etc. On retrouve Marc Chagall, enfin. Ça a duré très peu de temps. Ils avaient demandé la naturalisation française, ils l'ont pas eu, et il a fallu qu'ils s'enfuient à toute vitesse, et le malheureux Tissa seulement en 41, ouais. Et donc c'est par miracle qu'il a réussi à s'enfuir.
Ouais. Sébastien Balibar, aujourd'hui, donc ce programme Pause, c'est le même esprit finalement, hein, aussi, avec ce lieu d'accueil, en tout cas cet esprit d'accueil de la France envers ces scientifiques persécutés dans leur pays, obligés de migrer. Oui. C'est ça aussi, et on en accueille beaucoup aujourd'hui avec Pause.
Alors, je vais vous dire, effectivement, en faisant mes recherches et donc en écrivant ce livre, j'ai été saisi de la similitude entre l'accueil des réfugiés dans la fin des années 30 et le problème des immigrés en ce moment en France. Par exemple, on entend des gens qui vont vous dire grossièrement, ils vont tous nous piquer notre boulot, etc. Bon, ou que ce serait un poids au lieu d'être une richesse, ce qui est absurde. Bon. Et donc, j'ai demandé, et évidemment ils étaient très contents que je me joigne à eux, de faire partie du comité de coordination de ce programme Pause. Et donc on a réussi, grâce à des intellectuels courageux, ça recommence, grâce au soutien de nos deux gouvernements, que ce soit sous Hollande ou sous Macron, à avoir un soutien et d'obtenir donc du mécénat. Et on accueille environ 120 savants, chercheurs, scientifiques de toutes disciplines par an, grâce à de l'argent qu'on a trouvé et notre activité. Voilà.
Merci Sébastien Balibar, vous restez avec nous. Étienne Klein, évidemment votre confrère dans un instant. En attendant, ce livre qui s'appelle « Savants cherchent refuge » et c'est chez Audit Jacob.
Voyage d'été de ton âme se repose des torrents. Si le temps qui te retourne est au calme, fais de lui ton amant. Les plafonds se voient recouverts de sable, le décor te revient. La nuit des jeunes autour de la table, c'est lumière, tu retiens. C'est la lueur que je poursuis, sa flamme s'élève. Déjà les rayons chauds de l'astre t'embrasent, le présent est sans fin. Mille heures se déversent comme des pétales marées, qu'on très loin.
Son nom s'appelle Jaune, c'était la lueur.
Le club sur France Inter.
Une autre lueur dans ce club le vendredi, Sophie Bécherel pour nous présenter son invité coup de cœur.
Étienne Klein donc nous propose une conférence mais dans un théâtre, récréation à méditer. De quoi allez-vous parler? De physique uniquement?
De physique, de logique, de mathématiques et d'histoire des idées et des physiciens.
Mais j'ai vu que vous alliez parler de cerveau, Étienne Klein. Mais pourquoi Étienne Klein, physicien, va parler de cerveau?
Non, c'est simplement que une des phrases qui est citée dans la conférence est une phrase de Gaston Bachelard, ce philosophe des sciences à la barbe fluviale, qui a écrit dans un texte magnifique que faire de la science, notamment de la physique, ça consiste à penser contre son cerveau. Expression paradoxale, puisque évidemment on pense avec son cerveau, mais la science oblige notre cerveau à admettre des lois physiques qui ne sont pas celles qu'il pense spontanément au simple spectacle des phénomènes naturels.
Alors on va creuser ces idées-là, mais dites-nous déjà quelle forme ça va avoir, puisque vous nous avez dit que ça n'est pas une pièce de théâtre. Alors qu'est-ce que vous allez donc faire?
J'ai déjà vu Sébastien Balibar faire une conférence dans un théâtre, c'était le théâtre de la Reine Blanche. Il a parlé du Collège de France, Alain Prochian du Collège de France, c'est l'administrateur, a écrit une pièce de théâtre.
Oui, c'est vrai.
Plusieurs même, donc c'est pas très nouveau. Simplement, moi ce que j'avais écrit dans un petit texte il y a très longtemps, c'était que je m'étonnais que le théâtre ne soit pas plus souvent utilisé pour la diffusion des connaissances. Il y a très peu de pièces de théâtre qui parlent de science. Le théâtre, c'est un lieu pour s'émouvoir, pour réfléchir, pour comprendre. Mais il y a très peu de science dans le corpus des pièces. Et je trouvais ça dommage. Et un producteur que je ne connaissais pas m'a contacté, m'a pris au mot en disant, on va faire quelque chose dans un théâtre, vous ferez une conférence.
Et c'est un stand-up alors? Vous êtes seul sur scène?
Oui.
C'est une conférence ou c'est un monologue?
C'est un monologue comme les conférences.
Vous apprenez votre texte? Il y a de l'improvisation?
Il y a un texte de base, évidemment, parce qu'il y a un petit peu de mise en scène et il y a des petites vidéos à caler. Mais il y aura évidemment, sur ce qui est appris par cœur, une part d'improvisation, puisque je ne peux pas m'en empêcher.
Bon, et alors donc vous allez tenir tête à votre cerveau, puisque c'est ça l'idée, c'est de dire ce
qui est... C'est de montrer que faire de la science, c'est penser avec son cerveau, mais aussi contre lui. C'est-à-dire que... Les phénomènes physiques sont régis par des lois qui ne sont pas directement déductibles des phénomènes physiques eux-mêmes. Quand Galilée...
Sébastien Balibar n'est pas d'accord avec vous. On veut lui donner la parole.
Non, mais c'est qu'on semble oublier les expériences, parce que surprises viennent souvent des expériences. On est forcé à réfléchir contre son cerveau que parce qu'on a découvert quelque chose d'étonnant qu'il faut bien expliquer.
Oui, mais Sébastien, tu sais bien que Galilée a dit en 1604 que tous les corps tombent à la même vitesse dans le vide. À une époque, on ne savait pas faire le vide. Donc, il a trouvé cette loi sans faire l'expérience dans le vide.
Ça a permis à Claude Allègre de dire des bêtises.
Mais c'était pas le but.
De Galilée à Claude Allègre, dites donc, vous faites un sacré grand écart.
C'est pour ça qu'ils disent pas la même chose.
L'idée, si vous voulez, c'est que moi, je fais de la vulgarisation depuis très longtemps, comme Sébastien, et le slogan qu'on a tous répété, c'est « il faut mettre la science en culture ».
Ouais.
Et je pense que ça ne fonctionne pas bien.
Pourquoi?
Parce que on ne peut pas demander aux gens d'apprendre l'équation de Schrödinger, par exemple, au motif que ça serait nécessaire pour être un bon citoyen. Il y a des gens très cultivés qui ignorent la science. Ils n'ont pas parfaitement le droit de l'ignorer. Il n'y a aucun impératif catégorique à aimer la science. Par contre, ce qui me semble fonctionner, c'est la démarche inverse. C'est-à-dire mettre de la culture dans la façon de raconter la science. Je pense que Sébastien est d'accord, puisque c'est ce qu'il a fait dans son livre. On raconte des histoires, on raconte des génies, on raconte comment certaines idées sont nées. Parce qu'on a tous autour de cette table, et c'est vrai pour le public en général, on a tous beaucoup de connaissances scientifiques. Tout le monde sait que la Terre est ronde, tout le monde sait que l'atome existe, tout le monde sait que l'univers est en expansion. Mais qui sait dire comment on l'a su? Qui sait dire comment on a su dans l'histoire des idées que la Terre était ronde? Très peu de gens. Et donc, je pense que mettre de la culture de la science, c'est montrer comment, dans l'histoire des idées, des connaissances ont été acceptées, se sont construites par confrontation avec des croyances. Et si on ne sait pas comment les connaissances se sont démarquées des croyances, ça veut dire qu'on les traite intellectuellement un petit peu comme des croyances.
Et c'est donc par l'expérience qu'on sépare.
L'expérience, elle vient après.
Pas toujours.
Mais en tout cas, le but, c'est quand même, puisque la physique est une science expérimentale, d'arriver à la fin des expériences. Mais il y a toutes sortes de choses qui ont été prédites par la science, par la physique, bien avant qu'on en fasse expérience. Ondes gravitationnelles,
bosons de Higgs. Oui, il y a l'exemple contraire aussi.
On a votre contradicteur, en tout cas, derrière ce micro.
Mais c'est intéressant, c'est ça qui est bien avec Étienne Klein, c'est qu'il nous force à réfléchir. Moi, j'adore ça.
Il y a les deux cas. C'est-à-dire, il y a des découvertes qui sont déduites de l'expérience, mais on ne peut pas dire que la démarche scientifique soit toujours déductive. Les ondes gravitationnelles ont été prédites par Einstein en 1916 et découvertes en 2016.
Mais quand vous dites la science, mettre la science en culture, le lieu aussi du théâtre, c'est un lieu de mise en culture. Mais
justement,
aussi,
il y a une culture du théâtre, il y a une culture de la science. Qu'est-ce qui se passe quand on associe ces deux cultures?
Mais jusqu'où vous allez aller dans l'explication scientifique? Parce que là, vous parlez d'histoire des sciences, finalement. Comment on l'a su? C'est de l'histoire des sciences, plus qu'une explication d'un phénomène scientifique ou d'une théorie scientifique. Or, le public, peut-être, il serait intéressé à savoir comment on a su que la Terre était plate ou pourquoi la Terre était plate.
C'est pas le sujet de l'émission. J'ai créé une collection qui va démarrer bientôt, qui s'appelle « Comment a-t-on su ?» qui est le pendant du que sais-je, si vous voulez, dans laquelle on va expliquer comment on a su telle ou telle chose, comment on a su que la Terre était ronde. C'est une histoire passionnante que très peu de gens connaissent. Comment on a su que la Terre tourne autour du Soleil? Est-ce que les arguments de Copernic sont suffisants? Est-ce que les arguments de Galilée sont suffisants? Et le nombre de personnes qui sont capables de raconter ces histoires telles qu'elles se sont passées, extrêmement petit.
Oui, mais ça, l'histoire des sciences, Sébastien Balibar, c'est un très bon support aussi, justement, pour faire amener le public à la science. Ça, c'est bien.
Mais c'est très important.
Ça donne de la chair aussi au récit, quand
même. Bien sûr. Moi, j'aime donner de la chair à mes personnages et à mes thèmes. Mais pour insister sur ce que dit Étienne, qui est très intéressant, je crois, par exemple, cette histoire de liquide superfluide qui est de la physique quantique macroscopique. En fait, il y a quelque chose avant cette découverte expérimentale qui est que Einstein avait calculé un truc un peu compliqué à expliquer, mais qui s'appelle la condensation de Bose-Einstein. Et c'était tellement étonnant qu'il n'arrivait pas à y croire lui-même. On est exactement dans ce que Étienne disait tout à l'heure. Donc c'est devenu, un peu à la suite du scepticisme d'Einstein lui-même, c'est devenu quelque chose qui était sans doute un artefact de calcul. Et il a fallu l'expérience justement, mais surtout le génie de Thyssen et London pour dire « Oh mais si, c'est ça !» Et en fait, cette condensation de Bose-Einstein, c'est pas un artefact de calcul, c'est un vrai effet à l'échelle du visible de cette physique bizarre. Et puis ensuite, des années de vérification qui sont admirables, mais ça a fait travailler des dizaines de gens. Maintenant, la surprise qu'on a en trouvant quelque chose d'incroyable est des kilomètres plus haut dans l'enthousiasme, si je peux m'exprimer comme ça, que vérifier ce qu'on sait déjà, quoi, qui est manque de charme, quoi.
En cette période de mise en cause du savoir et de fake news, quelle est la place du scientifique? Il faut bien expliquer
justement,
par les progrès de la connaissance.
Moi, j'ai commencé à travailler le texte il y a quelques mois et je me rends compte maintenant qu'il est terminé, que c'est presque un texte politique, c'est-à-dire que on voit se développer une sorte de populisme scientifique, au sens où on n'hésite plus à utiliser des arguments de bon sens pour contester ce que disent les scientifiques. Or, la science, c'est ce que démontre
Bachar, c'est le contraire du bon sens,
elle
finalement.
Se construit contre le sens commun, contre le cerveau, qui lui va déployer des intuitions, etc. et donc, c'est une façon de dire, réfléchir en scientifique, ça n'est pas laisser son cerveau penser comme ça, divaguer, c'est beaucoup plus contraignant, et ça conduit à admettre, ça suppose de trouver des stratagèmes intellectuels pour faire en sorte que le monde décoïncide avec ce qu'il semble nous montrer. Et si j'ai appelé la conférence « Récréation à méditer », c'est à cause de l'anagramme de ce titre, que je ne vais pas dévoiler puisque je veux la réserver pour les gens qui sont dans la salle.
C'est vrai qu'il y a les anagrammes aussi.
Il y a une anagramme qui a été trouvée pour Olivier Garcia. « Récréation à méditer », ça fait « Rédaction téméraire », mais ce n'est pas là-dessus que je joue. J'en ai une autre.
Dernière question, Sophie,
Vous avez la trouille parce que dans un théâtre, ce ne sont pas des étudiants. Quel public vous voulez viser? Vous voulez toucher?
Quand on donne des conférences à Paris, on voit un public qui est en général assez âgé. Il y a très peu d'étudiants, très peu de jeunes. Je pense que c'est le pari, en tout cas, que les gens qui vont au théâtre ne sont pas ceux qui vont écouter des conférences en amphithéâtre. Et donc, s'il y a des jeunes, des adolescents, des lycéens, des étudiants, je serais ravi.
Attention, Étienne vieux... va compter les cheveux blancs.
Non, mais les vieux peuvent venir, ils sont les bienvenus.
Mais alors, vous allez, pour parler juste des fake news, est-ce qu'il y a des exemples à donner en physique, justement, sur ce sujet? Parce que, est-ce que ce n'est pas une discipline, finalement, qui est assez épargnée par ce phénomène des fake news?
On n'a pas vu de livre après la découverte du boson de Higgs qui se serait intitulé « Ma vérité sur le boson de Higgs ».
Non, mais par
comme
exemple,
on avait vu « Ma vérité sur le climat ».
Il y a beaucoup de sujets interdisciplinaires dans lesquels la physique intervient, ne serait-ce que, par exemple, le changement climatique, c'est une question d'énergie, d'optique, de thermodynamique, ça c'est de la physique. Il y a aussi le problème, bien sûr, de l'évolution. Et là-dessus, il y a des fake news qui sont
d'accord,
créationnistes ou négationnistes.
Mais je vous parlais de la physique, c'est bien pour ça que je vous pose la question dans votre domaine.
Dire que les atomes présents dans cette table, dans ce décor, dans cette pièce sont les mêmes que ceux qui nous constituent, c'est quand même contre-intuitif.
Absolument, ça fait partie des choses que la physique
a révélées. Donc il faut un minimum de savoir, non?
Mais je ne connais pas d'exemple venant de la physique moderne qui soit intuitif.
Allez, en tout cas, Étienne Klein vous attend. Je crois que le 4 février, c'est déjà complet, mais
et
il reste des places pour le 11.
Non, c'est complet aussi.
C'est complet aussi. Bon, il faut faire une troisième date, et puis peut-être une tournée en France. En tout cas, c'est au Théâtre de la Madeleine, en attendant, récréation à méditer. Et si vous avez trouvé l'anagramme, vous pouvez nous envoyer un message sur franceinter.fr.
Clap, prise 1, vision panoramique. Une caméra avance, gros plan sur Dominique. Seule devant la glace, elle ausculte son corps, puis crie machinalement encore quelques efforts. Tous les régimes sur elle furent testés. Toutes les tentatives ont été des échecs complets, mais elle persévère et pour plaire à son homme, Dominique a décidé de suivre la norme. Elle en magazine, des magazines dans lesquels elle pense trouver le recours ultime. Mazo à l'assaut de ses formes rondelettes, elle était occupée à couper du PQ quand on lui piquait les fesses une bique. De la mode, tel est son nom de code. Victime de la mode, tel est son nom de code. Lumière, scène 2, l'as de trèfle lui propose une toute nouvelle donne et en voici la cause. Tellement d'efforts et pour quel résultat? Elle perd de l'oseille au lieu de perdre du poids. Dominique réplique et très vite m'explique qu'elle veut être la réplique d'une créature de clip. Ainsi font les petites filles coquettes. Elles suivent un modèle qui leur fait perdre la tête. From London to Washington, Kingston, Charenton ou Carcassonne. Quand le téléphone sonne, elle nous répond sans cesse qu'elle était occupée à couper du PQ quand on lui piquait les fesses. Une victime de la mode, tel est son nom de code. Victime de la mode, tel est son nom de code. Donc en guise de conclusion à l'analyse logique de cette situation, le régime, le jogging, la liposuction sont à tester, mais il faut faire attention. Espérons que vous aurez compris les bases très claires de ce code de déontologie. Prendre ou perdre quelques kilos, l'essentiel est d'être vraiment bien dans sa peau. Ma tactique attaque, tout éthique avec tact. Dominique, pas de panique, écoute bien ce fond qui bite. La quête de l'image la laisse dans le stress. Elle était occupée à couper du PQ car on lui pique les fesses. Une victime de la mode.
Et c'est bien sûr MC Solar à l'instant sur France Inter.
La tête au carré. Le club.
We moved to a place about 80 kilometers north of San Francisco.
On s'est installé à 80 km au nord de San Francisco en 1993. Depuis, j'enregistre les sons de la forêt chaque année au printemps.
Le paysage sonore at that particular time in the
90s jusqu'au début des années 2000, il était très riche.
And there was a lot
on pouvait y entendre un nombre considérable d'espèces en même temps. C'était un lieu très apaisant. On y sentait la vie.
But here's an example in 2015.
Et ça, c'est un enregistrement de 2015 et l'on n'entend absolument plus rien.
Nothing there in
il y a ici et là un oiseau, mais le souffle de l'ensemble est parti.
Really
ne pas entendre d'oiseau, c'est si effrayant. C'était la première fois, en presque 80 ans d'existence, que j'ai fait l'expérience d'un printemps silencieux.
Voilà, le printemps silencieux, évidemment, en référence à cet ouvrage de Rachard Carson et Daniel Beaune, notre invité, journaliste spécialiste en nature et environnement, pour cet ouvrage « Sauvons les oiseaux » chez Rustica Édition, avec le soutien de la Ligue de protection des oiseaux. C'est vrai que Bernie Cross a fait un travail formidable, justement.
Oui, extraordinaire, hein. Oui, tout à fait. Parce que ça fait 50 ans qu'il enregistre les sons de la nature, et c'est vrai que bon, c'est absolument parlant, parce que on sent l'absence, la diminution des chants d'oiseaux et des autres animaux, parce que c'est des enregistrements globaux
de toutes les espèces,
sur
un lieu donné.
Et c'est vrai que c'est époustouflant. Alors aujourd'hui, il y a le Muséum National Histoire de
Naturelle
qui est en train de créer une sonothèque. Mais ce qui est super intéressant dans Bernie Krause, c'est que les archives ont 50 ans quasiment.
Ça. C'est des trésors. Hein,
c'est des trésors, oui, absolument.
Pour l'humanité, vraiment. Ouais. Un tiers des oiseaux ont disparu en 25 ans. On donnait ce chiffre tout à l'heure. Daniel Beaune, il est implacable. Hein.
Implacable, oui.
Malheureusement.
Hélas.
Comme les insectes, comme les mammifères. Insectes, oui. Enfin, pas aux mêmes échelles, évidemment. Hein, mais en tout cas, dans des proportions qui sont totalement sidérantes.
Tout à fait. Et on peut se demander pourquoi les politiques ne réagissent pas davantage. Mmh. Parce que c'est sûr qu'il y a des décisions qui seraient à prendre de manière tout à fait urgente, parce que je pense qu'on peut encore enrayer cette catastrophe annoncée.
Oui, c'est la vitesse hein, finalement de la baisse des effectifs qui est totalement troublante. Je ne sais pas si on en parlait tout à l'heure en direct à l'antenne, mais la question des moineaux hein, a été évoquée.
Voilà.
À Paris ou dans des capitales comme Londres, c'est quasiment toutes les populations de moineaux qui ont disparu.
Hein. Il y a une accélération des disparitions, enfin des populations d'oiseaux ces dernières années. Et c'est vrai que les moineaux, moi je me souviens avoir fait une enquête sur les moineaux il y a une dizaine d'années où les gens du Corif étaient encore très optimistes, et les chiffres qui sont sortis l'année dernière ou il y a deux ans, je crois que c'est l'année dernière, c'est 73% des moineaux qui ont disparu en 13 ans. Ouais. Et là on peut plus dire que c'est seulement à Londres, c'est aussi à Paris, et c'est quand même un des symboles de Paris.
Max nous écrit, il y a beaucoup de messages pour vous d'ailleurs sur le site, c'est une question qui touche beaucoup les auditeurs. Soyons précis, dit-il, il s'agit en fait de disparition des oiseaux spécialistes des milieux agricoles. Les oiseaux des milieux forestiers sont beaucoup moins impactés par la chute brutale, de même que les oiseaux généralistes qui eux sont en hausse. D'où ma question, demande Max, qu'est-ce qu'on appelle les oiseaux généralistes?
Alors les oiseaux généralistes, c'est des oiseaux comme le merle, comme les moineaux justement, comme les mésanges charbonnières. Et ça dépend complètement du milieu où elles se trouvent, parce que ces oiseaux-là, par exemple, effectivement, au niveau national, ne sont pas très impactés, mais dès qu'on est dans les milieux agricoles, là, ils chutent aussi. C'est pas seulement les oiseaux spécifiques des milieux agricoles comme l'alouette des champs ou le pipit farlouze, c'est tous les oiseaux qui sont impactés.
Le pipit farlouze.
Le pipit farlouze, c'est joli. Hein.
Ça ressemble à quoi, cet oiseau?
C'est un tout petit oiseau qui est pas très coloré et qui fait un espèce de petit bruit qui lui donne son nom d'ailleurs, un pit-pit. Je peux pas le faire, je suis pas très douée pour...
Pit-pit farlouze, très bien.
Alors, mais là, c'est 68% des populations de pépites qui sont...
Sébastien Malibar.
Ça doit être très inégal, c'est comme dans le climat, les variations de température sont très inégales en fonction des régions, des continents, des océans. Donc pour les oiseaux, il doit y avoir des endroits où ça disparaît complètement, et puis d'autres où il en reste, heureusement, mais non.
Mais tout à l'heure, on parlait du moineau. Effectivement, le moineau, dans les campagnes, en dehors des zones agricoles, moi, chez moi, j'habite un endroit de bocage, j'ai pas mal de moineaux. Et à Paris, c'est pas le réchauffement climatique ou... c'est surtout la disparition de l'habitat, parce que le moineau niche dans des creux, et avec toutes les nouvelles façades qui sont lisses et tout ça, ils ont plus d'habitat. Mais c'est aussi, et ça c'est tout à fait étonnant, c'est une question d'alimentation. Parce qu'en fait, les oiseaux, tous les oiseaux ont besoin d'insectes pour nourrir leurs petits, puisque c'est des protéines de bonne qualité, que ce soit les granivores, les frugivores, et a fortiori les insectivores. Et donc là, il n'y a plus assez d'insectes de bonne qualité, donc de protéines de bonne qualité pour nourrir les petits moineaux. Mmh. Et le moineau, comme il est très opportuniste, il nourrit ses petits avec notre nourriture. Et en fait, du coup, les moineaux parisiens sont très gras, sont plus petits, et surtout la reproduction est beaucoup moins bonne. Et voilà. Donc,
Étienne Klein s'intéresse aux oiseaux aussi. Il n'y a pas que la mécanique quantique.
Vous avez en partie répondu à ma question, puisque vous avez dit en préambule qu'il était encore temps d'agir. Ça suppose qu'on connaisse les causes de cette chute. Alors, vous en avez cité une, mais j'imagine qu'il y en a d'autres.
Oui, elles sont multiples. Alors, il y a les pesticides, bien sûr, qui envahissent tout et qui tuent les insectes. Donc, c'est la boucle est bouclée. Et puis, à la campagne, il y a la disparition des haies, qui est un endroit de refuge essentiel. Et c'est en plus des corridors biologiques pour que les espèces se croisent, etc. Et donc, aujourd'hui, dans les pays d'agriculture industrielle, on se retrouve avec des grandes étendues vides de tout arbre et surtout en plus complètement avec des pesticides partout. Quoi.
David nous écrit sur franceinter.fr, nous dit concernant les hirondelles, j'ai pu constater la destruction illégale de leurs nids dans ma commune, comme un peu partout ailleurs. Pourquoi les communes ne disposeraient-elles pas de nids artificiels? Ça c'est possible, également de sensibiliser les gens quant à leur destruction absurde.
Oui, alors les nids artificiels, ça change pas le problème pour lequel les oiseaux, enfin les nids des hirondelles sont détruits. C'est parce que souvent les gens les détruisent parce qu'ils supportent pas les crottes, les fiantes. En fait, les fiantes des oiseaux. Et en fait, il faut juste mettre une petite planchette sous le nid pour recueillir ces fiantes qui après sont un très bon engrais d'ailleurs pour les jardins. Voilà. Et effectivement, la destruction des nids d'hirondelles est interdite, mais c'est vrai que pourquoi ne pas mettre des nids d'hirondelles dans les communes? Mais il faudrait aussi que les maires et les gens qui habitent les villages en aient envie, parce qu'on ne peut pas leur imposer.
Alors Daniel Beaune, il y a plein de conseils évidemment pour agir favorablement pour ces populations d'oiseaux, des conseils pratiques, judicieux, ne pas épandre de produits en CID, hein, tout ce qui est pesticides, herbicides, fongicides.
Voilà, parce que effectivement tous les les pesticides chimiques sont interdits dans les jardins privés, mais pas les insecticides naturels. Et le pyrèthre, par exemple, moi j'ai très peur parce que les gens vont en plus avoir bonne conscience, ils vont se dire on emploie quelque chose de naturel et en fait ça tue tous les insectes absolument.
C'est une croyance en la nature.
Par contact et alors effectivement. Là, ça va être très, très compliqué.
Il faut des haies naturelles, évidemment, ça. Ne pas ramasser les feuilles mortes.
Oui, parce que dans les feuilles mortes, les merles, par exemple, adorent gratter dans les feuilles mortes pour ramasser les petites insectes qui sont en dessous.
Et puis donner à manger et à boire aussi aux oiseaux.
À boire. Alors, à boire, c'est très important parce que
loin des chats, hein, si c'est
le gîte, le gîte et le couvert, tout le monde y pense. Ouais. Mais l'eau, c'est très très important parce que les oiseaux en ont besoin pour boire, parce que comme nous, ils ont besoin d'eau. Et donc, il faut leur donner toute l'année, quand il gèle, quand il fait très sec. Et ils en ont besoin aussi pour nettoyer leurs plumes. Et ça, c'est très très important parce qu'un plumage qui n'est pas propre, eh ben, leur vol est moins efficace. Et alors, du coup, ils risquent de disparaître et de se faire attraper par les chats.
Voilà, ça s'appelle Sauvons les oiseaux, les 10 actions importantes pour réagir. Et c'est chez Rustica Édition. Vous êtes l'auteur de ce petit livre sensible. Daniel Beaune, merci beaucoup d'être venu nous en parler aujourd'hui dans le club.
Merci.
Sophie Bécherel, nous avons une minute d'avance, mais figurez-vous que ça n'est pas pour vous, parce que dans un instant, je demanderai à Étienne Klein de nous donner quelques anagrammes avant de partir.
Donc, allez, je vais faire
ne grignotez
vite pour
pas
mon
le
agenda.
Temps.
D'accord. À partir de demain et jusqu'au 24 février, le département des Hauts-de-Seine propose La Science se livre, une manifestation dont vous avez peut-être parlé ici, hein, qui vise à partager la science, faire des ponts avec la culture et à soutenir l'édition scientifique. Il y a pendant toute cette période 150 rendez-vous proposés, presque tous en contact avec des chercheurs. Des projections documentaires, des conférences, des spectacles, des ateliers petit débrouillard. Le programme est disponible sur internet et sur le site de notre émission. Ça se passe donc dans les médiathèques du département et les autres lieux culturels. Et par exemple, demain, la médiathèque de Clamart, la compagnie du singe debout, vous proposera Métamorphose, une performance déambulatoire et musicale autour du thème relation homme-animal, qui est donc le thème de cette année. À noter que La Science se livre remet chaque année un prix à des ouvrages scientifiques. Le palmarès est tombé ce matin. Dans la catégorie adulte, c'est L'ironie de l'évolution de Thomas Durand, publié au Seuil, qui a été distingué. Extrêmement proche du sujet que va aborder Étienne Klein, je vous le recommande vivement. Et dans la catégorie adolescent, Animaux médecins chez Albin Michel Jeunesse. Voilà, je ne l'ai pas vu, mais je vous signale une pièce de théâtre sur les rêves lucides. C'est un thriller scientifique de et avec Marien Tillet. Il est seul sur scène. Et voici le propos. Une journaliste est dérangée toutes les nuits par les talons de sa voisine au-dessus. Elle en devient insomniaque et pour tenter de remédier à son problème, elle intègre un protocole expérimental pour lequel elle devra prendre un médicament afin de tester les limites du rêve lucide. Mais l'expérience va déraper et donc le rêve et la réalité vont se mélanger. Ça s'appelle Paradoxal. C'est au théâtre de Belleville à partir de dimanche et jusqu'au 19 février. Je répète que je ne l'ai pas vu, mais comme ça se joue depuis un petit moment, à
donc
mon
si
avis,
vous n'aimez pas,
ça marche
vous
bien.
N'en voulez pas, Sophie.
Et puis on termine avec une conférence, oui, de Vincent Coudet du Foresto sur les exoplanètes. Ça se passe ce soir au club d'astronomie d'Antony dans les Hauts-de-Seine.
Merci beaucoup, Sophie. Étienne Klein, les Gilets jaunes, la France insoumise, mais la tête au carré, anagramme, s'il vous plaît. D'abord de la tête au carré.
Carte lauréate.
Carte lauréate. Moi, j'aime beaucoup, hein. Franchement.
Je ne sais pas ce que ça veut dire.
Non, mais moi, j'aime bien. Carte lauréate, c'est quand même pas mal.
Carte gagnante.
Alors, voilà.
La France insoumise.
Un enfer, mais social.
D'accord.
C'est Jacques Périsselkoff qui l'a trouvé, celle-là.
Et
j'en ai une, si vous permettez,
allez-y.
Qui justifie qu'on parle de physique au
très
théâtre.
Vite.
La théorie de la relativité restreinte. Anagramme, c'est loi intersidérale et vérité théâtrale.
Magnifique. Et les Gilets jaunes, pour terminer.
Ils jaugent leur jauge. Ils jugent leur jauge. Faut vérifier.
Bon, on vérifie, mais on est dans l'idée, en tout cas. Merci beaucoup à tous. Passez un très bon week-end.
Merci à vous.
Toutes les références, les livres, les spectacles sont sur le site de la Tête au Carré.